France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, un jour en Ukraine, une fois de plus.
Mesdames et messieurs les députés, nous devons réagir. C'est pourquoi le président de la République a appelé ces dernières semaines à un sursaut collectif pour aider l'Ukraine et pour éviter le scénario du pire. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre.
Ça, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, donc lors du débat à l'Assemblée sur l'aide à l'Ukraine et le fameux accord de sécurité bilatéral qui a été signé. Bonsoir Tetiana Ougarkova.
Bonsoir.
Et bonsoir Volodymyr Yarmolenko.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là tous les deux. Vous êtes philosophe et écrivain. Volodymyr, vous présidez le Pen Club. Vous êtes journaliste responsable du département international pour l'Ukraine Crisis Media Center. Tetiana, vous avez tous les deux un podcast qui s'appelle L'Ukraine face à la guerre. Et je le disais, on s'est déjà croisés. On s'est croisés lorsque nous étions, nous, à Kiev. À ce moment-là, on reviendra sur là où on est resté d'une certaine façon, en fait, parce que moi, je m'en souviens assez bien, en fait. Je voudrais savoir si vous avez suivi ces débats, ce qu'on vient d'entendre, notamment de Gabriel Attal, débat qui, avec un vote très large, évidemment, oui, nous devons aider l'Ukraine, mais avec aussi une opposition derrière. Comment vous avez suivi ces débats et comment vous les vivez ?
En fait, on constate ce changement très très marquant de la position française. Gabriel Attal, mais tout aussi bien Emmanuel Macron, les paroles, les thèses des hauts dirigeants français étaient très bien accueillies en Ukraine, puisque bien sûr, on ne discute pas concrètement l'envoi des troupes françaises sur le sol ukrainien, on ne discute pas concrètement l'emploi de l'armée, de l'OTAN en Ukraine, mais il est très important pour nous les Ukrainiens de voir ce réveil, cette capacité de leadership français, de voir la réalité en face et de reconnaître que cette guerre qui a lieu actuellement en Ukraine, ce n'est pas une affaire ukrainienne, c'est une affaire européenne.
Vous parlez de réveil, Tetiana, est-ce que c'est le mot que vous employeriez, Volodymyr Yarmolenko? Quand on dit réveil, ça veut dire qu'on s'est un peu endormi. Vous avez le sentiment qu'on est un peu sorti de notre léthargie ou pas?
Pas encore, je pense, okay. mais ça arrive et je me rappelle très bien que décembre dernier, on a eu à Kiev un philosophe français, Pascal Bruckner, qu'on a rencontré d'ailleurs aujourd'hui aussi, et on a fait un débat avec un titre « L'Europe doit se réveiller ».
Ouais.
Donc, et je pense qu'il y a pas mal des choses qui se sont passées après décembre, et c'est bien que ça veut dire que l'Europe a vraiment mené par la France. Et ça, pour nous, c'est aussi important. Donc, c'est vu en Ukraine que l'Europe se réveille menée avec le leadership français, ça c'est bien.
Quand je disais tout à l'heure, Tetiana, que je me souvenais parfaitement bien de ce qu'on s'était dit à ce moment-là, lorsqu'on s'est croisés, vous nous avez dit « soyez prêts », parce que c'est sur vous que ça va tomber. Évidemment que toute l'Europe entend ça, l'entend empiriquement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on l'entend mieux encore? Parce qu'il y a eu effectivement ces phrases d'Emmanuel Macron, mais l'Europe n'a pas renversé la table encore quand même. Ou est-ce que vous avez le sentiment que si, l'Europe est en train de renverser la table?
C'est tout le début, en fait, de prise de conscience de danger que la Russie représente pour le continent européen, de danger que ça représente pour la civilisation occidentale. Aujourd'hui, avec cette capacité d'affronter le danger représenté par Poutine, voilà, qui est absolument contre l'Europe, contre les valeurs sur lesquelles repose notre civilisation. Et oui, nous voyons cette prise de position qui est prête à affronter les armes à la main, ça c'est vrai, les armes à la main, cette agression russe, c'est très important puisque la prise de conscience qu'on...
Les armes à la main vraiment, y compris les nôtres.
Les armes à la main, c'est-à-dire les armes tout d'abord envoyées à l'Ukraine,
d'accord,
n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec cette solidarité tchèque, mais bien sûr aidée par d'autres pays européens, nous voyons un million d'obus qui vont faire son chemin vers l'Ukraine, ça c'est capital, puisque c'est à cause de l'absence de l'obus d'artillerie que l'Ukraine commençait à perdre les positions à Avdi, mais aussi partout. Donc c'est surtout le temps qu'on perd, c'est le temps qui fait des fausses promesses à Poutine que oui, il peut continuer, qu'il peut progresser, qu'il a déjà consacré toute une armée, il a consacré, selon les estimations américaines, 300 000 hommes, selon nos estimations ukrainienne encore plus, et ça l'arrête pas, et donc elle continue, et donc c'est le moment de se dire que oui, l'Ukraine aura autant d'armement que nécessaire et autant d'autres assistances militaires, pourquoi pas avec les instructeurs étrangers en Ukraine, que nécessaire pour libérer les territoires.
Volodymyr, si les Américains lâchent, parce que les Américains n'ont toujours pas signé pour l'aide qu'ils vous doivent, l'aide qu'ils vous ont promis, et on sait bien ce qui peut se passer derrière, si les Américains lâchent, est-ce que vous avez le sentiment que nous, les Européens, sommes capables de prendre une vraie relève et de pallier l'absence des Américains? Après tout, si nous sommes là, on n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez cet optimisme-là ou cette inquiétude-là?
Écoutez, c'est la nécessité. Donc, ce n'est pas la question de vouloir ou pas vouloir. C'est la guerre en Europe, c'est la guerre contre l'Europe. Et on sait bien l'histoire américaine. Dans l'Amérique, le sentiment d'isolationnisme, ça revient de temps en temps. C'était présent au début du XXe siècle. Mm-hmm. Oui, heureusement, les Américains ont décidé pendant la Deuxième Guerre mondiale d'intervenir et aussi c'était vraiment décisif pour la victoire sur le nazisme. Mais c'est la guerre en Europe aujourd'hui, comme la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour cela que l'Europe est beaucoup moins divisée que pendant la Deuxième Guerre mondiale et doit se préparer à se défendre contre cette puissance totalitaire.
Il s'est passé d'autres choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a eu notamment un attentat à Moscou, un attentat qui a été revendiqué par Daesh. Mais derrière, évidemment, on sait bien la narrative que Vladimir Poutine a voulu mettre derrière cet attentat. La menace d'une nouvelle offensive qui prendrait prétexte de l'attentat du théâtre, est-ce que ça vous inquiète ou pas? Est-ce que ça vous paraît même inévitable?
En fait, cet attentat dans le City Hall de Crocus, en fait, a été revendiqué d'une manière très explicite.
Absolument.
Par l'État islamique. Mmh. Et on était très surpris, peut-être pas tellement surpris, mais quand même, on ne trouve pas du tout convaincante cette thèse de Poutine que d'accuser l'Ukraine. Mmh. Mais il y a un danger qui est là et qui est imminent, et même plutôt pas, qui est même explicite, c'est que, avec cet attentat-là, la Russie cherche à se présenter en tant que pays victime. Au même titre que la France, victime de terrorisme, ou d'autres pays européens, et donc, ça ouvre une voie de communication qui ont été rompues depuis plusieurs mois, voire peut-être 2 ans, après la grande invasion russe. Voilà, se présenter en tant que, voilà, sur le même bateau avec la France, avec d'autres pays, et donc communiquer, coopérer.
Vous avez cette crainte que l'une des utilisations, ce soit de créer une sorte de canal de communication.
Exactement,
en fait.
Et c'est en train de se passer déjà. Bien sûr que Emmanuel Macron, quand il s'est exprimé là-bas, il a fait la distinction entre le régime de Poutine, de Kremlin, et d'autre côté, le peuple russe, mais on nous interroge toujours sur cette empathie. Donc il y a bien sûr que les attentats terroristes ils suscitent beaucoup d'empathie normale, absolument naturelle, de la part de tout le peuple. Et donc, ça invite la Russie, et ça fait oublier que la Russie, actuellement, c'est aussi un État terroriste qui commet les actes terroristes sur la base de tous les jours contre l'Ukraine.
C'est marrant qu'on vous demande si vous avez aussi de l'empathie. J'ai été tentée de vous poser moi aussi la même question. En fait, je suis sûre que c'est très compliqué dans vos têtes. Quand il y a un attentat de ce type-là, où on tue des innocents de manière absolument dingue, à la mitraillette, et en même temps vous êtes en guerre contre ce pays. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là?
Est-ce que c'est compliqué
d'avoir de la compassion, en fait, tout simplement?
Oui, c'est pas la compassion, on n'est pas du tout heureux, en fait.
Bah,
on n'est pas du tout heureux de voir ce genre de actes contre les civils, que ça soit même que ça soit en Russie. Mais pour dire que de là on compatit vraiment, et peut-être pas, parce que voilà, ça fait 2 ans que on voit pas beaucoup de population russe compatir avec de nos victimes tous les jours. Vraiment, comme vous savez, les troupes russes font des frappes indiscriminées aujourd'hui, par exemple, contre la ville de Kharkiv avec des bombes d'aviation, ça détruit des immeubles. Donc il y a pas beaucoup de compassion, et surtout il y a pas beaucoup d'action politique qui proviendrait de l'intérieur du peuple russe, et oui, ça nous chagrine et ça nous éloigne. On regarde ça comme si à travers une vitre de fatigue et de l'indifférence.
Et en même temps, il y a eu un autre moment, Volodymyr, ça a été la mort de Navalny. Et on a vu des gens sortir à ce moment-là, prendre le risque d'aller aux obsèques de Navalny, continuer à fleurir sa tombe. Est-ce qu'au fond de vous, dans ce moment-là, vous vous dites « Ah, il y a donc une autre Russie, et c'est bon à savoir ». Est-ce que ça traverse votre esprit, ça, ou pas du tout ?
Oui, ça traverse, bien sûr, parce que s'il y a une autre Russie, c'est bien sûr un espoir pour tout le monde. Le problème, c'est que cette autre Russie, cette Russie alternative, elle est trop minuscule. Demandez-vous ici, par exemple, si l'immigration russe font beaucoup de manifestations chaque mois contre la guerre, contre Poutine. ça, je vois pas, franchement. Donc, le problème, c'est que cette Russie alternative, elle existe peut-être, mais elle est trop minuscule et malheureusement, elle change pas grand-chose.
L'une des utilisations de ces attentats de Vladimir Poutine, ce serait de lancer une offensive. On arrive au printemps, hein, donc on est dans cette période-là. On sait bien que là, tout récemment, il a visé des infrastructures, donc des coupures d'électricité constantes, y compris à Kiev, y compris à Lviv, y compris dans ces villes-là. On sait aussi qu'il y a une espèce d'obsession pour Odessa, la ville russe, j'espère qu'on entend bien les guillemets que j'y mets. Dans quel état d'esprit vous êtes à cette arrivée de printemps où finalement le front a très peu changé par rapport à ces dernières semaines?
Nous annonce cette contre-offensive plutôt vers l'été 2024. Sérieusement, pour l'instant, on ne voit pas justement des preuves qui est qu'une invasion, une grande invasion possible du type de février 2022. Si l'armée russe arriverait à progresser d'une manière significative, ça sera dans une seule direction, en tout cas ce que nous est dit par des experts. Pour l'instant, il y a beaucoup de craintes pour Kharkiv. Kharkiv, pour vous dire, c'est une deuxième grande ville en Ukraine qui vit sans électricité depuis plus d'une semaine déjà, puisque les Russes ont effectivement détruit les fondamentaux d'électricité dans cette ville-là. Il est extrêmement difficile, mais en même temps, on ne constate pas des amassements de troupes russes qui seraient prêts d'ici quelques semaines de faire un progrès. Nous avons vu à Avdiivka, ça leur a pris 10 mois de prendre 40 km², combien d'hommes et combien de temps il leur faudra pour prendre une ville telle que Kharkiv.
Écoutez, on vous suivra en tout cas, et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que vous ne voyez pas ça avant bien longtemps, voire jamais. Je voudrais dire, Volodymyr Yermolenko et Tatiana Ogarkova, que puisque vous êtes en France demain, on est le 2 avril, vous êtes à Paris 8 pour une conférence, des lectures de poésie notamment, et que le 3 avril, c'est mercredi à 21h, vous êtes à la Maison de la Poésie avec le magazine Cometa. On les embrasse avec Emmanuel Carrère qui est là et qui a été celui qui a fait aussi un bout de route avec vous en Ukraine, et je ne sais pas s'il reste de la place. En tout cas, ça se passe à la Maison de la Poésie à Paris, c'est mercredi le 3 avril. Renseignez-vous. Je vous remercie chaleureusement tous les deux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Israël avec la Cour suprême qui met un gros coup de pied dans la fourmilière inflammable pour le pays et pour toute la coalition de Benjamin Netanyahou. L'exemption militaire dont bénéficient les juifs orthodoxes depuis des années, et pour aller jusqu'à 19h. Christelle Robière, sous les radars.
Eh bien, je vous emmène au Kenya, à l'enterrement d'un influenceur en mode TikTok. Et vous l'entendrez, on n'est pas vraiment dans le recueillement.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir. Pourquoi les élections municipales en Turquie marquent peut-être le début de la fin pour Erdogan?
Et la BO du Monde et Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Beyoncé n'est pas seule. Une nouvelle génération de rappeurs et de musiciens noirs est en train de se réapproprier le langage de la country. L'occasion de retracer l'histoire méconnue des Afro-Américains dans cette musique si conservatrice.
Allez, Team Beyoncé. À tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni avec Fight White Family, Religion for One. Vous êtes sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Retour en Israël ce soir avec le premier coup de semonce de la Cour suprême israélienne, la plus haute juridiction du pays, contre l'exemption militaire dont bénéficient depuis des années les juifs ultra-orthodoxes. Depuis ce matin, les élèves des yeshivot, ces écoles religieuses en âge d'aller à l'armée, c'est-à-dire entre 18 et 24 ans, ne recevront plus de subventions pour étudier la Torah. Et au bout de cette politique punitive, il y a ce que ces orthodoxes craignent le plus, être enrôlés de force dans l'armée. Alors évidemment, colère des partis ultra-orthodoxes qui sont membres de la coalition de Benjamin Netanyahou. S'il partait, il pourrait faire tomber cette coalition. Mais dans un pays en guerre depuis près de 6 mois, deux poids, deux mesures entre ceux qui n'ont pas le choix et vont se battre et les autres, ce deux poids, deux mesures est devenu proprement insupportable. Le reste, c'est Thibault Lefebvre qui raconte.
Quartier de Tel HaShomer, à l'entrée d'une grande base militaire à l'est de Tel Aviv, chapeau noir, long manteau, une trentaine de jeunes ultra-orthodoxes attendent en file indienne, un papier à la main, l'ouverture du bureau de recrutement de l'armée.
C'est un document pour être exempté. On le présente et on est exempté un an. Là, vous voyez, il y a la signature du rabbin et celle du demandeur.
Comme Chaim, ils ont tous entre 18 et 24 ans, l'âge du service militaire, et chaque année, ils reviennent au même endroit, à la même date, avec toujours la même demande.
J'étudie la Torah, donc je n'irai pas à l'armée.
Le jeune homme prend la parole pour le groupe. Il est arrivé en minibus de Jérusalem, où il est inscrit depuis l'âge de 13 ans dans une école religieuse, ce qu'on appelle ici une yeshiva.
Sans notre travail sur la Torah, les soldats ne pourraient pas exister. C'est nous qui veillons sur eux grâce à nos études du livre sacré.
Shalom est lui aussi un fantassin de ce qu'il appelle l'armée de Dieu.
Je suis un libéral. Il y a des gens qui ne s'adressent pas aux femmes. Essayez d'aller leur dire qu'ils doivent aller à l'armée, ils ne vont pas se laisser faire.
Shalom n'a plus l'âge d'étudier à la yeshiva. À 24 ans, il est désormais au kollel. C'est l'étape d'après où il a choisi de dédier sa vie à l'étude des textes sacrés. Et pour la dernière fois donc, si bien sûr la loi ne change pas, il vient déposer sa demande d'exemption. Il aura ensuite passé l'âge du service militaire obligatoire.
Beaucoup de gens pourraient aller à l'armée, beaucoup, mais donnez-leur de la nourriture cachère, séparez-les des femmes. Il faut fournir la base, dégager du temps pour étudier et apprendre la Torah. Ils font ça toute leur vie, ce n'est pas pour s'amuser, ils y croient vraiment. Donnez juste ces trois choses simples.
Et pourtant, c'est ce que l'armée expérimente déjà depuis plus de 20 ans dans des bataillons dédiés comme Netza Yehuda. Il n'y a pas de femmes, la nourriture est cachère, les soldats sont mieux payés et ils ont des emplois du temps aménagés. Mais l'incitation ne suffit plus. Le ministère de la Défense peine à recruter le millier d'ultra-orthodoxes que la loi impose d'intégrer chaque année dans l'armée. Il a évalué les besoins en hommes à 7000 à très court terme. Les ultra-orthodoxes en âge de faire leur service militaire sont 10 fois plus. Alors avec la guerre, le regard de la société civile a changé.
On voit combien de soldats ont été tués ou blessés. On a besoin de plus de soldats.
Rivka a perdu des amis à Gaza et son frère a été gravement blessé il y a 5 semaines.
Il se bat pour vivre, mais Dieu merci, il va mieux.
Cette chercheuse, spécialiste de la société ultra-orthodoxe, est croyante, traditionnaliste, et elle comprend, malgré les drames qui la touchent personnellement, la mentalité des religieux les plus extrêmes.
Mon mari est rabbin. Regardez tous les livres autour de nous. Je pense que les ultra-orthodoxes ont peur, pas forcément d'être tués, mais plutôt d'être laïcisés. Beaucoup d'entre eux sont vraiment ennuyés. Comment pouvez-vous vous sentir israélien aujourd'hui sans connaître quelqu'un dans l'armée ? Mais les ultra-orthodoxes sont sincèrement concernés. Ils prient, ils essaient de faire des choses à leur manière, mais ils savent que ce n'est pas assez. Et ils ont conscience que les Israéliens sont très en colère contre eux. On veut qu'ils participent à la communauté.
La réponse d'un des plus grands rabbins d'Israël a choqué, il y a moins d'un mois, une grande partie de la population. Itzhak Yosef, l'autorité la plus haute dans la communauté religieuse séfarade, a affirmé que s'ils étaient contraints de servir dans l'armée, les ultra-orthodoxes quitteraient le pays. Un Israélien sur 6, donc sur une population qui ne compte que 9 millions d'habitants.
Et j'ajoute au reportage de Thibault Lefebvre que le gouvernement peut encore proposer un projet de loi permettant d'aménager le service militaire des ultra-orthodoxes et sauver donc sa coalition. Tout cela devrait être validé par la Cour suprême. Et s'il n'y arrive pas, des sanctions financières contre les étudiants des écoles religieuses pourraient encore se durcir. Bref, on n'y est pas. La prochaine échéance, c'est le 9 août. Reportage donc signé Thibault Lefèvre. L'actualité internationale continue avec l'info passée sous les radars et Christelle Robière. Et Christelle, nous commençons au Kenya à suivre non pas un meeting, mais un enterrement.
Oui, celui de Brian Chira, un jeune TikToker de 23 ans, suivi par 400 000 personnes sur le réseau social. Il y racontait la dureté de sa vie, orphelin, élevé par sa grand-mère, atteint du sida. Il a sombré dans la dépression, l'alcool et les excès, mais ce n'est pas de la maladie qui l'a emporté. Il a été tué par un chauffard, qui d'ailleurs est toujours en fuite. Sous le choc, ses fans ont décidé de venir à son enterrement et la cérémonie familiale a viré à la gigantesque partie. 5000 fans sont arrivés en bus avec t-shirt et sweat à son effigie. Ils ont dressé de grandes tentes. Certains ont pris le micro pour chanter pendant que la famille complètement dépassée avait du mal à se faufiler. Et là, eh bien, ils se sont comportés comme des usagers de TikTok faisant des selfies sur sa tombe toute fraîche, enchaînant les bières. On a retrouvé de l'alcool dans un vase de fleurs tout près de sa tombe. Ils ont fait la fête sans un mot de condoléances pour la famille, le choc des mondes avec la civilisation Kikuyu qui n'a même pas pu faire respecter ses traditions.
Aux États-Unis, ça là, le son d'une ambulance est souvent signe du début des ennuis et pas seulement de santé.
Oui, se retrouver à l'hôpital peut vous mettre en faillite. Tout simplement, 100 millions d'Américains sont criblés de dettes, soit près d'un sur trois. Et l'ancien médecin-chef de Donald Trump, Jerome Adams, se fait leur porte-voix en partant de son expérience personnelle. Durant une randonnée, il a eu des vertiges et des étourdissements. Il a dû se retrouver à l'hôpital pour être réhydraté. Coût de la nuit et de la perfusion, 4 800 $ après déduction de ce que son assurance a couvert. Une facture immédiatement suivie d'une lettre menaçant de saisir une agence de recouvrement. Or, dans la majorité des hôpitaux, les malades n'ont aucun recours. Jérôme Adams réclame plus de transparence dans les tarifs et il voudrait obliger les assureurs à verser plus. Mercredi, Joe Biden doit dévoiler de nouvelles mesures, notamment la baisse du prix de certains médicaments pour les plus de 65 ans. Aux États-Unis, les médicaments coûtent en moyenne 2,5 fois plus cher qu'en France. Et ce sera assurément l'un des thèmes de la campagne présidentielle.
Times. Make it Suntory time.
Voilà, un moment relaxant, c'est un moment Suntory.
Oui, vous vous souvenez peut-être de cette scène extraite du film Lost in Translation avec un Bill Murray complètement désorienté qui tourne donc une pub pour un whisky japonais. Eh bien, depuis ce matin, le breuvage possède désormais son appellation protégée. Depuis le début des années 2000, le whisky japonais est réputé. Le pays compte une centaine de distilleries et les exportations ont atteint 340 millions d'euros en 2022. Une croissance exponentielle qui avait attiré des producteurs peu scrupuleux. On prenait un whisky écossais, banal, qu'on mettait en bouteille au Japon et on lui donnait un nom local. Eh bien, désormais, il faut utiliser de l'eau de source du Japon pour le fabriquer et les fûts doivent être stockés au moins 3 ans sur place. Le cahier des charges est enfin strict, mais aucune sanction n'est prévue pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Et ça, franchement, ça nous scotche.
Voilà, tous les whiskies ne sont pas bourbons pour le service. Hein. Vous l'avez ? Merci beaucoup, Christelle. Merci, public aimé. Vous partez avec ça. Massy. Rawi, ça date de 2001, ça n'a pas pris une ride. Rawi, ça veut dire le compteur.
ولا لونجا بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي ودينا بعيد مدد ليا مجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاو لك ما تزيد ما تنقص من عندك كاين شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Wad Massi, Raoui, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Louise Baudet.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez ce soir pourquoi les élections municipales en Turquie sont peut-être le début de la fin pour Erdogan. Hier, le président turc a donc perdu, certes, une élection municipale, mais la claque est sévère. Le CHP, le principal parti d'opposition, fait carton plein dans les plus grandes villes du pays. Il opère une percée dans des fiefs du parti au pouvoir. Erdogan, pourtant, s'est investi personnellement dans la campagne. Alors, est-ce qu'il l'a fragilisé? Lui qui a été réélu président il y a à peine 10 mois.
Ah ben le premier obstacle, c'est la crise économique extrêmement sévère en Turquie. Le coût de la vie a explosé, l'inflation dépasse les 67% en un an, 10 points de plus à Istanbul. La valeur de la livre turque a été divisée par 5 en 5 ans et l'indice de confiance des consommateurs a littéralement plongé l'été dernier, juste après la réélection d'Erdogan. Il y a ensuite la très classique usure du pouvoir, après 22 ans d'hégémonie, pas de renouvellement programmatique de l'AKP et des candidats ternes. Conséquence de l'hyper-personnalisation du pouvoir, Erdogan ne laisse aucune tête dépassée, y compris en interne. Résultat, quand il n'est pas candidat lui-même, eh bien, il perd la partie.
Et puis, il y a la concurrence d'un nouveau parti islamiste.
Oui, Nidan Refa, arrivé troisième avec presque 7% des voix, remporté hier dans les bastions du parti au pouvoir, ces régions très conservatrices de l'Est et du Sud-Est de la Turquie. Conséquence indirect de la guerre au Proche-Orient. Pendant la campagne, Yedidine Refa a reproché à Erdogan de maintenir des relations commerciales avec Israël.
Et Louise, ce scrutin marque aussi le redressement spectaculaire du CHP, donc le parti laïque, nationaliste, fondé par Atatürk, qui n'était pas arrivé en tête d'une élection depuis 47 ans.
Ouais, complètement dominé par l'AKP pendant des années, sonné par sa défaite à la présidentielle l'an dernier, le CHP fait cette fois carton plein. La personnalité du maire réélu d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a joué. Ce musulman très pieux, ex-homme d'affaires, séduit au-delà de son camp et jusque dans l'électorat d'Erdogan. Possible aussi que le vote des jeunes ait pesé. Selon un récent sondage cité par la revue Le Grand Continent, cette jeunesse turque s'identifie de plus en plus à un héritage kémaliste, nationaliste et conservateur, mais pas islamiste. Le rattachement à cette identité-là a été divisé par deux en deux ans. Seuls 10% des jeunes sondés citent l'islam comme marqueur politique. Laïcisation qui a peut-être joué en faveur de l'opposition, sachant que la moitié de la population turque a moins de 30 ans.
Alors est-ce que ça veut dire qu'Erdogan vit le crépuscule de son règne? Est-ce que c'est beaucoup trop vite hein?
Ah, sa chute a déjà été annoncée, hein. Elle n'était pas advenue, c'était en 2019, après les municipales remportées dans les grandes villes et notamment Istanbul par l'opposition. 4 ans plus tard, Erdogan a été réélu président, certes au second tour, mais assez largement. Et son parti, après 2 décennies de pouvoir, garde la main sur tous les rouages de l'administration et de l'État. Méfiance par ailleurs quand il a laissé entendre que ces élections seraient les dernières organisées sous son autorité. Ce ne serait pas la première fois qu'Erdogan annonce son retrait de la vie politique. Il dispose devant lui de 4 années sans élection et d'une majorité très confortable au Parlement turc. Et puis il a certes 70 ans, il est certes physiquement et politiquement diminué, mais son sens politique exceptionnel, sa plasticité, son opportunisme le rendent imprévisible et donc redoutable.
Louise Baudet et Le Monde à 18h50. Louise, merci beaucoup. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui prend le tempo de la planète, la BO du Monde.
France Inter. Le 18-20.
Cyril, c'est difficile d'y échapper, hein. Elle est partout depuis quelques jours avec la sortie de son nouvel album, Cowboy Carter, Beyoncé métamorphosée en chanteuse country. L'occasion de rappeler à quel point les artistes afro-américains ont joué un rôle important dans l'histoire de ce genre musical.
Un rôle souvent méconnu et oublié. L'image du parfait cowboy que véhicule la country n'a jamais laissé beaucoup de place aux artistes noirs. Et c'est là toute l'ambition de Beyoncé avec son nouvel album. Réhabiliter la mémoire des pionniers, mettre en lumière ces artistes qui ont bravé les préjugés, comme la chanteuse Linda Martell. Dans les années 60, elle est la première femme noire à connaître le succès dans ce milieu très conservateur. À Nashville, la Mecque de la country, Linda Martell est l'une des rares à percer avec quelques autres, comme le crooner Charlie Pride. Tout cela ne pèse pas lourd dans l'industrie de la country, comme si les artistes afro-américains devaient rester cantonnés à des genres qui leur sont associés, le gospel, la soul, le rhythm and blues. Pourtant, les frontières entre les styles sont plus poreuses qu'on pourrait le croire. Prenez Ray Charles, par exemple. Très grand fan de country, au milieu des années 60, il enregistre un album entier de reprises country en mode big band. Hey, sweet baby, don't you think maybe? Pour mémoire, l'original signé Hank Williams ressemblait plutôt à ceci. Alors on a voté autour de la table, mais on préfère la version 1, hein, on est d'accord avec ça. Cyril, et s'il remonte aux racines des musiques rurales du sud des États-Unis, les influences noires et blanches ont toujours été infiniment liées. Depuis les premiers blues des chants de coton jusqu'aux chants gospel dans les églises, la ségrégation raciale n'a jamais empêché les mélanges musicaux. Saviez-vous par exemple que ce sont les esclaves africains qui ont apporté des Caraïbes le banjo, cet instrument à cordes devenu plus tard une signature des musiques country folk? De Johnny Cash à Otis Redding en passant par Elvis, tous les grands artistes du Sud, qu'ils soient noirs ou blancs, seront le fruit de ce grand métissage. Mais au fil du temps, la country va devenir de plus en plus conservatrice, identitaire, voire raciste, phénomène qui va s'accentuer dans les années 2000, après le 11 septembre et avec l'émergence du trumpisme et des suprémacistes blancs.
Et donc voilà pourquoi Beyoncé et une nouvelle génération d'artistes dans son sillage ont décidé de se faire entendre.
En pleine année électorale, le timing ne doit rien au hasard. C'est un acte politique et artistique à la fois. Le constat, c'est de dire que, à force de se renfermer sur elle-même, la country s'est blanchie, elle est aussi devenue plus formatée. Pourtant, l'alternative existe. En ce moment, il y a tout un nouveau courant qui émerge aux États-Unis. De jeunes artistes noirs se réapproprient la country, certains de façon plutôt traditionnelle, comme la chanteuse banjoiste Rhiannon Giddens. Et d'autres intègrent des éléments country dans leur hip-hop. Premier gros succès du genre, il y a quelques années, le tube Old Town Road du rappeur Lil Nas X. Il y a comme ça plein de rappeurs actuellement qui jouent, qui s'amusent avec les codes de la country, ses sonorités, ses mélodies. Et ça donne des choses très intéressantes comme ici avec le rappeur Blanco Brown. Left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it and lean back.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. Vous reviendrez lundi prochain avec votre banjo ou pas. Dans un instant, c'est le journal de 19h. Ce sera Hélène Philly, bien sûr, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, les années Pompidou sont dans le téléphone sonne.
50 ans après sa mort, le 2 avril 1974, Georges Pompidou est en plein retour de hype. On était égoïste, inconscient, fumait dans la voiture avec les enfants à l'arrière. Et puis c'était le bon temps de l'ORTF.
L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. Et par conséquent, ceux qui parlent à la télévision ou à France Inter, ils parlent un peu au nom de la France. Quand vous parlez, il y a une certaine hauteur de ton et de pensée qui vous est réclamée.
Eh oui, Georges Pompidou, le lendemain de ma naissance, 2 juillet 70, Vincent par mail. Le leitmotiv des temps passés, c'était travail pour consommer et tout ira bien. Surtout ne pas penser et accumuler. Les gens veulent retourner dans le passé juste parce qu'ils n'ont plus de vision pour le futur. Antoinette, même tonalité, je suis né en 45. Pendant les années Pompidou, on se sortait la tête de l'eau après la guerre. On croyait en l'avenir, on avait espoir. Alexandre de Bordeaux, Pompidou est mort quand j'avais 8 ans. Gamin, ma mère me laissait aller à l'école tout seul à pied. Les était plus cool sous Pompidou. Maintenant, il y a de la répression, de la peur. La société a changé.
Allez, 01 45 24 7000, vous êtes bien chaud et c'est tant mieux. À tout de suite. Merci de nous écouter.